Bonjour Astrid Moulin.
Bonjour Annette.
Alors, vous êtes à l'origine du blog Fringinto qui est devenu bien qu'un simple espace personnel. C'est un véritable point de repère pour de nombreux francophones en Ontario. Comment est née cette envie de partager votre expérience et d'accompagner les autres dans leur parcours d'intégration?
Alors, j'ai toujours aimé partager, j'ai toujours aimé rencontrer les gens et j'avais dans un coin de ma tête, j'avais quand même toujours la volonté de, quand les blogs sont devenus populaires, parce qu'il faut se remettre en 2014, quand j'ai commencé. C'est un peu difficile à voir aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux qu'on a, mais en 2014, c'était la plateforme principale que les gens utilisaient. Et quand j'ai décidé de déménager pour une année, parce qu'à l'origine, c'était une année que je voulais passer à Toronto, je me suis dit que c'était une bonne raison de commencer à documenter cette expérience. Mais la raison principale à la base, c'était quand même plus pour garder une trace pour ma famille et mes amis en France, pour qu'ils puissent garder un lien et que ils aient l'opportunité de consulter, enfin de regarder ce que j'étais en train de faire. C'était un plus un journal intime en ligne qui s'est transformé de multiples façons par la suite. Mais à la base, c'était l'envie de partager et de garder une trace de ce que je faisais.
Et justement, Fringinto, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, ce Fringinto?
Si j'avais su à l'époque le mystère que ça allait ça allait créer, parce qu'à chaque fois c'est une question qu'on me pose. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de 2014. Aujourd'hui, on est très à l'aise avec l'idée d'avoir son nom, son prénom en ligne. En 2014, tout le monde utilisait des pseudonymes puisque c'était encore, on pensait que ça nous protégeait plus. Et j'ai cherché quelque chose qui était personnel et qui allait apporter une partie de mon histoire avec moi. Et comme j'ai une frange depuis quasiment toute petite et que mes copains rigolaient par rapport à ça en France en faisant tous les surnoms possibles avec la frange, j'ai décidé de mettre la frange comme un clin d'œil à cette histoire-là et in Toronto, donc in TO. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que tout le monde va le prononcer de manière différente entre les anglophones, les francophones, les gens qui savent pas trop comment dire. Donc c'est aussi mine de rien, c'est aussi une bonne façon de commencer la conversation. Donc je suis contente, puis ça garde mon histoire, une partie de mon histoire française aussi avec moi.
Et votre contenu, c'est de l'information concrète, accessible, mais souvent absente aussi ailleurs. Pourquoi avoir eu envie de commencer ce blog-là et comment vous voyez le rôle des réseaux sociaux dans l'intégration des nouveaux arrivants ici en Ontario?
C'est vrai que, de toute façon, c'est un secret pour personne qu'on n'a pas assez de contenu en français en Ontario et à Toronto, surtout pour une grande ville où on a quand même des gens qui viennent du monde entier, parce que on peut penser souvent que en tout cas, quand moi je vais rencontrer des gens, que les francophones, enfin les gens qui parlent français, ça se limite aux Français. Et en fait, grâce à ça, je me suis vraiment rendu compte que il y a des francophones qui viennent du monde entier et que on a tous le même besoin, c'est trouver des informations simples et accessibles dans notre langue. Au départ, c'est que moi j'ai commencé à partager et que en partageant mon expérience petit à petit, j'avais de plus en plus de questions de personnes qui me trouvaient en ligne et qui me disait, Astrid, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Est-ce que tu peux nous expliquer ci? Et je dirais, un des gros moments où j'ai réalisé l'importance que ça pouvait avoir, c'est quand j'ai fait ma demande de résidence permanente et que je trouvais aucune information concrète. J'arrivais pas à avoir une idée du budget qu'il fallait que je prépare. Et le budget, quand on est nouvel arrivant, c'est un point essentiel. Je savais pas combien il fallait que j'économise, combien ça allait me coûter, en fait, vraiment. J'arrivais pas à trouver toutes les étapes concrètes de m'expliquer. Les sites du gouvernement, vous allez trouver les informations, mais je trouvais que c'était pas accessible, que j'arrivais pas. Voilà, c'était pas accessible et compréhensible, et j'avais aussi envie d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui l'a vécu et qui va m'apporter les détails qui seront peut-être laissés de côté sur quelque chose de plus officiel. C'est à ce moment-là où, quand j'ai fait ma demande, j'ai documenté toutes les étapes, j'ai pris des impressions d'écran de tout ce que je pouvais partager, évidemment, qui n'était pas confidentiel, pour pouvoir créer un article qui allait aider comme un tutoriel, c'est un tutoriel pour aider les personnes qui passaient après moi. Et quand j'ai vu l'effet que ça avait et le nombre de personnes qui m'ont contacté en me disant que grâce à l'article, ils ont pu prévoir combien de temps ça allait durer, combien d'argent il fallait mettre de côté, puisque j'ai vraiment mis jusqu'au prix du timbre que j'ai payé pour que ce soit le plus réaliste possible, parce que tous les frais cachés comme ça, en fait, ça, mine de rien, ça s'ajoute. Et puis, encore une fois, un budget pour un nouvel arrivant, c'est une des plus grosses sources d'angoisse, parce que on n'a pas de filet de sécurité, en fait. C'est ce qu'on a sur notre compte en banque et ce qu'on gagne, c'est la seule chose qu'on a. Et c'est à ce moment-là, en fait, avec tous les retours des gens, que j'ai aussi compris l'importance que ça pouvait avoir et l'aide que ça pouvait apporter, la différence que ça pouvait apporter. Et à un moment donné, j'essayais de partager sans trop en dire, parce que moi, quand je suis arrivée, Je voulais aussi avoir l'effet de surprise, de découverte, et je voulais pas gâcher ça pour les gens. Mais je me suis rendu compte au fil des questions, au fil des conversations que je peux avoir, que tout le monde n'a pas ma perspective, et il y a des gens qui avaient besoin d'être rassurés aussi. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à créer tous ces supports, et que je me suis rendu compte que ça pouvait faire une vraie différence quand je rencontre les gens et qu'ils m'expliquent comment mon contenu a pu les aider. C'est un sentiment tellement spécial. Mon contenu, il est très, très différent de ce qu'on peut trouver sur d'autres créateurs de contenu ou d'autres influenceurs à Toronto. Et je leur dis en rigolant, je dis, bah, c'est comme si vous déménagez quelque part et que vous trouvez la grande sœur, en fait, qui va vous dire, bah, attention, faut faire tes papiers, faut bien ranger tes papiers correctement, parce qu'après la RP, tu vas en avoir besoin pour ta citoyenneté, tout ça. Mais aussi qui va te dire, ce dentiste-là, il est bien, ce resto, il est bien. C'est vraiment plus du quotidien et vraiment comme une amie qui va vous expliquer différents aspects de la vie dans votre nouvelle ville.
Alors, au-delà du numérique, vous animez aussi des ateliers et vous organisez des événements mensuels en collaboration avec des organismes locaux. Pourquoi était-ce important pour vous de sortir de l'écran et de créer ces moments en présentiel?
Moi, j'adore rencontrer des gens, j'adore voir rencontrer de nouvelles personnes, écouter leurs histoires et créer du lien en personne. Avant tout ça, en fait, j'étais commerciale terrain. Donc moi, je rencontrais des gens tous les jours avant de venir au Canada. J'avais mes clients. J'ai toujours été au contact des gens. Donc l'avantage de ce que je fais, c'est que je peux le faire de partout. Mais ça me manquait un peu ce lien humain. Et surtout, les ateliers, je les ai commencés parce que j'avais beaucoup beaucoup de questions sur comment développer son réseau à Toronto, parce que j'ai quand même après 2 ans, j'ai réussi à trouver un travail pour avec les équipes de sport de Toronto, et ce qui m'a donné aussi beaucoup de visibilité parce que je faisais partie des seules francophones et des seules françaises à travailler là-bas, on n'était pas nombreux. D'avoir toute cette expérience-là, c'est des choses que j'aime partager en face à face parce que je peux rebondir sur les questions. Et puis je me nourris de l'énergie des gens aussi. Donc j'ai commencé à les faire moi-même, puis j'ai été contactée par des organismes francophones pour les faire avec eux. Donc je travaille avec plusieurs de ces organismes-là. Et pour les événements, c'est que pendant le Covid, j'ai plusieurs abonnés qui m'ont écrit en me disant, Astrid, ça fait 2, 3 mois que j'ai vu personne, parce qu'ils sont arrivés juste avant le Covid et qu'ils n'ont pas eu le temps de se créer un cercle. On sait que ça prend du temps, un cercle solide, et ils se sentaient vraiment isolés. Donc à ce moment-là, je leur ai dit, bon, bah, on peut pas se voir, on peut pas être proches, mais peut-être qu'on pourrait aller dans un parc et on se met tous à 2 mètres les uns des autres, juste pour au moins avoir ce contact humain. Et au début, on était une dizaine. Ça a tellement plu. Moi, je pensais que c'était quelque chose qui allait rester juste pendant le Covid. Ça a tellement plu qu'il y avait de plus en plus de demandes, plus en plus de gens qui venaient. Le plus qu'on a eu, quand même, plus de 70 personnes. Maintenant, je limite parce que sinon, pour moi, ça devient, c'est un peu trop intense et j'arrive pas à profiter aussi des gens qui sont venus. Mais surtout, ce que j'apprécie, c'est que enfin, les partenaires avec qui je travaille, que ce soit des marques, soit des lieux, ils comprennent la valeur de cette communauté. Et cette année, je travaille avec plusieurs endroits, plusieurs marques qui sponsorisent nos événements, donc qui vont offrir des expériences à mes abonnés, qui vont offrir des produits. C'est aussi parce que bon, faut être honnête, faut quand même que tout ça, ça prend du temps et des ressources, donc il faut aussi pouvoir avoir plus d'options. Mais c'était aussi pour permettre à mes abonnés de profiter d'expériences qu'ils voient sur les réseaux, par exemple des invitations, bah, ils voient des créateurs de contenu tester tel produit ou être invités à tel endroit. Je me suis dit comment je peux les inclure pour que eux aussi puissent profiter et pas seulement voir et regarder et dire oh ben voilà ces influenceurs ils sont invités ici ou invités ici. Donc ça a été ce désir-là et je suis contente parce que les marques elles ont vraiment compris et j'ai des gens qui m'ont dit tout de suite ça j'ai apporté quelque chose de différent parce que il y a plusieurs manières de travailler avec des partenaires, c'est où eux vont venir avec un projet qui est déjà établi, ils vont vous dire voilà est-ce que toi ça correspond? Oui, non. Mais vous pouvez aussi expliquer aux marques à dire voilà moi ma communauté je la connais bien, je sais ce qui leur plaît. Par exemple, moi, je sais que ma communauté adore les visites, adore découvrir, comprendre ce qui se passe derrière. Et vous pouvez venir leur proposer un projet. Et dans ce cas-là, moi, j'ai eu plusieurs endroits qui m'ont dit oui, nous, ça nous plaît. Et donc, c'est comme ça que ça a évolué et que on peut aussi, voilà, avec des partenaires, on peut aussi élever la qualité des événements.
Vous êtes finaliste du prix Relève ON dans la catégorie leader inclusif. Qu'est-ce que cette reconnaissance représente pour vous?
Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment une très très belle reconnaissance parce que en venant d'Internet on est souvent quand même regardé un peu différemment parce que tout le monde ne comprend pas la profondeur de ce qu'on fait et l'impact que ça peut avoir sur les gens. Et quand il y a des organismes qui sont plus traditionnels, qui reconnaissent l'impact que Internet peut avoir et que derrière un ordinateur, derrière les événements qu'on organise, derrière le contenu qu'on crée, on peut faire une différence pour d'autres personnes. Ça montre aussi que les organismes, ils évoluent et que, ils comprennent l'importance que d'autres formes de communication peuvent avoir. Donc, non, je suis vraiment, vraiment hyper fière quand j'ai été nominée. Il y a une partie de nomination en premier et ensuite on sait si on est dans les finalistes. J'ai été vraiment, vraiment tellement touchée, tellement fière et puis reconnaissante aussi parce que on peut faire le meilleur du contenu, le meilleur, avoir les meilleures intentions. Si on n'a pas de communauté derrière qui nous suit et qui nous soutient, tout ça n'a pas de valeur. Donc, je suis aussi hyper fière et hyper reconnaissante d'avoir ma communauté. Là, depuis que ça a été rendu public, j'ai reçu plein de messages, les gens que j'ai croisés qui m'ont félicité, et je me dis que c'est vraiment touchant de voir à quel point les gens, ils font partie aussi de mon aventure. Moi, je fais partie de la leur, mais ils font aussi partie de la mienne.
Bien sûr, c'est très beau ça. Merci beaucoup en tout cas Astrid Moulin pour votre présence et pour tout le travail que vous accomplissez pour la communauté francophone de l'Ontario. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite et bien sûr pour le gala Relève ON qui aura lieu le 12 juin prochain. Merci beaucoup Astrid.
Merci beaucoup, Annette.
C'était une entrevue d'Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.